Voilà, bonjour à tous. Donc, nous sommes le 13 avril 2024, Bibliothèque Niemeyer. Et la conférence de ce matin a pour titre « Justifier la colonisation, point d'interrogation, à partir d'une lecture de Tocqueville ». Alors, j'ai mis à votre disposition le plan de la conférence, un document d'accompagnement que vous pourrez rechercher aussi, à la fin de la séance, si ça peut vous aider. Et puis quelques extraits de l'œuvre. Il y a deux feuilles sur lesquelles je m'appuie. Bon, l'association Philopop est à l'initiative de cette conférence en partenariat avec la bibliothèque Niemeyer du Havre. Voilà. Alors, en octobre 2023, il y avait déjà eu ici une conférence à la bibliothèque. Et j'avais parlé des ambiguïtés qu'on pouvait reprocher, à tort ou à raison, aux philosophes des Lumières, face à la traite négrière et à l'esclavage colonial. J'avais privilégié l'examen de la philosophie de Montesquieu, dans la mesure où il est considéré comme le premier à avoir dénoncé l'esclavage dans ses écrits. Et la question qui se posait était à ce moment-là la suivante. Est-ce que ces philosophes, à commencer donc par Montesquieu, ont vraiment combattu l'esclavage colonial, ou est-ce qu'ils ont seulement condamné son principe, tout en justifiant la pratique, pour des motifs économiques ou politiques? Alors, je voudrais poursuivre aujourd'hui ce type d'enquête. Mais à présent, elle ne portera pas sur un philosophe des Lumières, mais sur l'un de ses héritiers, Alexis de Tocqueville, disciple de Montesquieu et de Rousseau, qui a vécu, lui, au début, en tout cas dans la première moitié du XIXe siècle. Et cette fois, ce ne sera plus face à l'esclavage, mais face à la colonisation, puisque Tocqueville a été un fervent promoteur de la colonisation de l'Algérie, qui débute en 1830. Dans le cas de Tocqueville, on ne peut plus parler d'ambiguïté. Le mot est trop faible. Il semble bien qu'on puisse parler d'une véritable contradiction, d'une contradiction éclatante entre sa philosophie et son action d'homme politique. Car Tocqueville n'a pas été seulement un philosophe, il a été aussi un homme d'État, plus exactement un député de la circonscription de Valognes, qui se fera régulièrement élire de 1839 à 1851, et il va même être quelque temps ministre des Affaires étrangères sous la Seconde République en 1848. Alors, le problème est le suivant. Comment le philosophe Tocqueville, reconnu comme un grand penseur de la démocratie et du libéralisme, l'auteur de ce grand ouvrage qui est « De la démocratie en Amérique », dont la première partie est publiée en 1835, comment Tocqueville a-t-il pu soutenir, justifier et même promouvoir l'entreprise coloniale menée par la France en Algérie, comme en témoignent ses écrits sur l'Algérie, qui vont de 1837 à 1847 et qui sont publiés dans la collection Garnier-Flammarion. Je vous montrerai le volume tout à l'heure, si vous le souhaitez. Alors, la lecture de ces écrits a de quoi vraiment beaucoup surprendre le lecteur de la démocratie en Amérique. Ainsi, c'est le même Tocqueville qui condamne l'expropriation des terres indiennes par les blancs anglo-saxons aux États-Unis, qui fustige encore l'esclavage des Noirs dans le dernier chapitre de la première partie de ce grand texte. C'est le même Tocqueville qui justifie peu de temps après l'entreprise coloniale en Algérie. Et alors, comme on le verra, qu'il exprime de la compassion pour le sort des Indiens d'Amérique, chassés de leur territoire, eh bien il se montre parfaitement indifférent à celui des Arabes d'Algérie, qui pourtant sont exposés à une situation analogue. Alors comment donc expliquer, et comment comprendre, si c'est possible, une telle contradiction ? Un tel changement de position. La grande majorité des commentateurs n'en disent mot et ignorent le problème. Le seul Tocqueville qui soit l'objet de leur attention, c'est l'auteur de La démocratie en Amérique. Quelques autres admettent la contradiction, mais considèrent qu'il est précisément possible d'opposer au Tocqueville colonialiste des écrits sur l'Algérie, le Tocqueville libéral et démocrate de La démocratie en Amérique. On pourrait ainsi critiquer en quelque sorte Tocqueville par Tocqueville. Ainsi, soit on ignore les écrits de Tocqueville sur l'Algérie, soit on les traite comme les écrits d'un homme politique qui a cédé à la passion nationaliste et qui, pris dans les contraintes de l'action politique, a mis en quelque sorte ses principes entre parenthèses. Dans les deux cas, on considère qu'il y a une contradiction entre la pensée du philosophe et l'action de l'homme politique. Mais, en vérité, y a-t-il réellement une contradiction? Ce n'est pas en tout cas l'avis de Tsvetan Todorov, philosophe contemporain, mort il n'y a pas longtemps, dans le chapitre qu'il consacre à Tocqueville dans un livre qui s'appelle « Nous et les autres », paru en 1989, où il affirme au contraire que, loin de s'opposer, le colonialisme de Tocqueville et son libéralisme sont inséparables. Alors, que dit, je résume un peu, hein, que dit Todorov? Ben, il considère que Tocqueville, lui, sur le plan individuel, Tocqueville pense que la domination des autres hommes est illégitime, mais il ne voit aucun inconvénient à ce qu'un État en soumette un autre. Il n'y a pas de droit international qui l'interdise et qui l'empêche. D'où la conclusion de Todorov, le colonialisme de Tocqueville n'est que le prolongement international de son libéralisme. Quoi qu'il en soit, hein, c'est ce dont nous aurons à discuter, quoi qu'il en soit, que les textes de Tocqueville sur l'Algérie entrent ou non en contradiction avec les principes énoncés par sa philosophie politique, les écrits de Tocqueville sur l'Algérie ont par eux-mêmes un grand intérêt. Ils constituent un remarquable document historique. La lecture de ces textes fait un éclairage exceptionnel sur ce qu'est un processus de colonisation, par-delà le cas particulier de l'Algérie, au XIXe siècle. Et Tocqueville, comme nous allons le voir, s'exprime sans détour et ne dissimule aucunement la violence qui est inhérente à ce processus. Alors d'abord, quelques mots sur Tocqueville et sur sa philosophie politique, afin de bien situer les choses. Tocqueville est né en 1805. Il est issu d'une famille aristocratique, dont un certain nombre de ses membres ont eu la tête tranchée pendant la Terreur révolutionnaire. Ayant entrepris des études de droit, il entre dans la magistrature, mais sa vraie passion est intellectuelle. Il a lu Montesquieu, Rousseau, Pascal. Il s'est imprégné de leur lecture. Et lorsqu'à la suite des journées qu'on appellera les Trois Glorieuses, en juillet 1830, le roi Charles X, le dernier de la dynastie des Bourbons, est renversé, et que Louis-Philippe devient roi des Français, Alexis de Tocqueville rompt avec sa famille pour prêter serment au nouveau monarque. La famille de Tocqueville est légitimiste et ne peut aucunement admettre l'autorité du nouveau roi, qui est le descendant de Philippe d'Orléans, frère de Louis XVI, qui a voté sa mort en 1792. Alexis de Tocqueville est en outre républicain. Et sous cette étiquette, il sera élu député à l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit, et il deviendra même ministre des Affaires étrangères, donc en 1848, sous la Seconde République. Il est convaincu que la monarchie est dorénavant un régime révolu. Car, selon lui, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Et si en 1831, il décide de partir en Amérique avec son ami Gustave de Beaumont. C'est avant tout pour observer la jeune démocratie américaine, à la fois dans ses institutions et dans ses mœurs. Il voit à travers elle ce que sera le devenir probable des vieilles nations européennes. Son voyage en Amérique dure 8 mois, et de retour en France, il rédige donc la première partie de la démocratie en Amérique, qui paraît la première fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1835. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre pour Tocqueville par la société démocratique? Il faut en dire quelques mots. La démocratie, ce n'est pas seulement une forme de gouvernement, c'est aussi un type de société, fondée sur ce que Tocqueville appelle l'égalité des conditions. Comme le dit Tocqueville, l'égalité des conditions, c'est le principe générateur de la société démocratique, autrement dit son moteur. C'est le moteur des sociétés modernes, qui toutes sont appelées à se transformer conformément à ce principe. Et pas seulement dans leurs institutions, mais aussi dans leurs mœurs. L'égalité des conditions ne se traduit pas en effet seulement sur le plan politique, par des institutions, par des lois fondées sur la souveraineté du peuple et sur l'égalité de droit des citoyens, mais elle se traduit aussi sur le plan social par des changements profonds dans les rapports sociaux et dans les mentalités. C'en est fini des sociétés traditionnelles dont le principe n'est pas l'égalité des conditions, mais celui de hiérarchie. Les sociétés traditionnelles sont ainsi des sociétés aristocratiques, dans lesquelles les hommes se rangent selon des ordres, des castes. Considérés comme des ordres immuables dont on ne peut absolument pas sortir. La hiérarchie y apparaît ainsi naturelle, intangible, et les hommes qui appartiennent à des rangs différents ne se conçoivent pas et ne se perçoivent pas comme des semblables. C'est avec la société démocratique, avec son extension, avec son développement, que le sentiment du semblable va s'étendre à tous. Le principe d'égalité des conditions, il faut ici éviter un malentendu, ne signifie pas que les hommes sont tous égaux économiquement, socialement. Il signifie exactement qu'aucune position dans la société ne peut désormais être considérée comme héréditaire et intangible. En théorie, tous les hommes peuvent accéder aux positions les plus hautes. En d'autres termes, le principe d'égalité des conditions autorise la mobilité sociale des individus. Alors, cette présentation, certes assez sommaire, cette présentation de l'analyse que fait Tocqueville de la société démocratique est ici utile pour comprendre en quoi la position des Indiens et celle des Noirs aux États-Unis en 1830 constitue une anomalie importante eu égard à la démocratie américaine. Il faut savoir qu'en 1831, au moment où Tocqueville fait son voyage aux États-Unis, un cinquième de la population américaine est composée d'Indiens et de Noirs. C'est considérable. Comme l'écrit Tocqueville, je cite, « On rencontre en Amérique autre chose encore qu'une immense et complète démocratie, et c'est ainsi que commence le dernier chapitre de la première partie de la démocratie en Amérique, qui est de loin le chapitre le plus volumineux de son livre. » Alors, il a pour titre, le titre de ce dernier chapitre, « Quelques considérations sur l'état actuel et l'avenir probable des trois races qui habite le territoire des États-Unis. » Alors, le terme de race ici, ne l'entendez pas comme on l'entend aujourd'hui. Ce n'est pas un terme spécialement raciste. Au XIXe siècle, on parle de race comme on parle de peuple, si vous voulez. Donc, trois peuples, trois races, trois peuples. Alors, quelles sont ces trois races? Bonjour. Vous n'avez pas trop menti. Quelles sont ces trois races? Donc ce sont d'abord les blancs anglo-américains qui en deux siècles ont construit la démocratie américaine. Les Indiens qui habitent le territoire américain depuis longtemps, en tout cas bien longtemps avant les blancs anglo-saxons. Les Noirs que les blancs anglo-américains ont fait venir d'Afrique pour les utiliser comme esclaves. La démocratie américaine s'arrête aux Blancs. Elle exclut les Indiens et les Noirs, qui, n'étant pas reconnus comme des égaux, elles ne sont pas non plus perçues comme des semblables. Les Indiens et les Noirs ont en commun, comme le dit Tocqueville, d'être soumis à la tyrannie des Blancs, c'est son expression. Mais leur position est toutefois différente, car cette tyrannie ne s'exerce pas de la même façon selon les uns et les autres. Alors, dans la mesure où l'objet principal de cette conférence, c'est l'attitude de Tocqueville face à la colonisation, et aussi, étant donné les limites de temps, je ne développerai pas la question de la condition des Noirs, qui à elle seule, d'ailleurs, mériterait franchement une conférence. Juste un minimum. Disons simplement que si l'esclavage est sur la voie du déclin en 1830 aux États-Unis, si son abolition apparaît inéluctable, ce n'est pas pour de nobles raisons morales, mais en raison de l'évolution économique. Et par ailleurs, loin de se traduire par une véritable émancipation, l'abolition expose les Noirs à des discriminations violentes de la part des Blancs, qui ne peuvent pas supporter l'idée que les Noirs deviennent juridiquement des égaux et qui continuent d'associer imaginairement la couleur noire de la peau à la condition d'esclave, même l'esclave une fois aboli. Le racisme prend à ce moment-là le relais de l'esclavage. Quant au sort des Indiens, je vais surtout parler des Indiens, il est révélateur du processus de colonisation qui est encore en cours aux États-Unis. Et de ce point de vue, leur position est assez proche de celle des Arabes d'Algérie, dont le pays est conquis par les Français dès 1830. Après s'être libérés de l'Angleterre, après avoir obtenu leur indépendance, les Blancs anglo-américains se sont engagés dans un mouvement d'expansion qui les conduit dans les plaines immenses du centre de l'Amérique et qui parviendra dans un avenir proche jusqu'à la côte ouest. Or, ce mouvement de colonisation signe la disparition programmée des Indiens. Donc la tyrannie exercée sur eux par les Blancs, je reprends le terme de Tocqueville, consiste en effet à les expulser des territoires où ils chassent en les privant du gibier qui constitue leurs ressources naturelles et à les exproprier pour les refouler toujours plus loin vers l'ouest. Dans son dernier chapitre de la démocratie en Amérique, Tocqueville marque ses distances avec les justifications avancées pour expliquer l'exil des Indiens vers l'ouest. Il se moque ainsi de ces casuistes, de ces docteurs modernes, ce sont ses expressions ironiques. Il se moque de ces gens-là qui prétendent que c'est la famine qui pousse les Indiens à fuir leur territoire. Or, loin d'être la cause de cet exil, la famine est au contraire la conséquence des pratiques mises en œuvre par les Blancs pour conquérir de nouvelles terres. Ces derniers n'ont pas besoin de recourir à la violence pour y parvenir. Non qu'elle soit exclue en cas de résistance des Indiens. Mais l'expulsion des Indiens se fait la plupart du temps en douceur, dans le pur respect de la légalité. Là où la présence des Blancs fait fuir le gibier que chassent les Indiens sur les terres qu'ils occupaient, eh bien les Blancs leur proposent de les racheter et de s'installer plus loin à l'ouest, en leur promettant que tout ira mieux là-bas, jusqu'à ce que le même scénario se reproduise à ce moment-là, quelques temps après. Pour cette opération, les pionniers blancs reçoivent le soutien financier du gouvernement fédéral et des gouvernements des États fédérés, qui n'hésitent pas à consacrer des sommes et des moyens importants à cette politique d'expansion. Et à cela s'ajoute la corruption exercée par les Blancs. Ils corrompent les Indiens en leur faisant contracter leurs besoins et leurs goûts, en les avilissant, en leur faisant notamment découvrir les armes et l'alcool, en les faisant dépendre de leur industrie pour les acheter, et leur faire accepter des traités iniques présentés comme des traités de paix et d'amitié, alors qu'ils sanctionnent légalement la dépossession de leur territoire. Dans ces pages, Tocqueville ne cache pas son indignation face à la cupidité sans vergogne des Blancs. Il fait part de sa compassion à l'égard des Indiens, de ces fiers Indiens dont les qualités et les valeurs guerrières, leur sens de l'honneur, évoquent pour lui les qualités et les valeurs aristocratiques de la noblesse du temps de l'époque féodale. Et pour dénoncer le processus colonial, il s'appuie sur un texte remarquable, tout à fait authentique, celui d'une pétition rédigée par les Indiens Cherokees qu'ils adressèrent au Congrès des États-Unis. Alors les Cherokees, il faut le savoir, ce sont des Indiens qui s'étaient montrés ouverts à la civilisation des Blancs anglo-saxons, à l'acquisition de leur mode de vie, mais ils ne tardèrent pas à se rendre compte que cela se faisait à leurs dépens. Et dans cette pétition, les Cherokees retracent à grands traits l'histoire des Indiens depuis l'arrivée des Européens et, je cite, « le désastre universel qui s'en est suivi ». Eh bien là, on peut lire justement un extrait que je vous ai mis, que j'ai mis à votre disposition. C'est le premier texte. On va pas tout lire, hein. on va lire un passage. C'est un extrait de la lettre des Cherokees à partir de la ligne 11. Vous devez repérer. Premier texte, page 1, ligne 11. Par la volonté de notre Père Céleste qui gouverne l'univers, disaient les Cherokees dans leur pétition au Congrès. La race des hommes rouges d'Amérique est devenue petite. La race blanche est devenue grande et renommée. Lorsque vos ancêtres arrivèrent sur nos rivages, l'homme rouge était fort. Et quoiqu'il fût ignorant et sauvage, il les reçut avec bonté et leur permit de reposer leurs pieds engourdis sur la terre sèche. Nos pères et les vôtres se donnèrent la main en signe d'amitié et vécurent en paix. Tout ce que demande l'homme blanc pour satisfaire ses besoins, tout ce qu'il demanda pour satisfaire ses besoins, l'Indien s'empressa de lui accorder. L'Indien était alors le maître et l'homme blanc le suppliant. Aujourd'hui, la scène est changée. La force de l'homme rouge est devenue faiblesse. À mesure que ses voisins croissaient en nombre, son pouvoir diminuait de plus en plus, et maintenant, de tant de tribus puissantes qui couvraient la surface de ce que vous nommez les États-Unis, à peine en reste-t-il quelques-unes que le désastre universel est épargné. Les tribus du Nord, si renommées jadis parmi nous pour leur puissance, ont déjà à peu près disparu. Telle a été la destinée de l'homme rouge d'Amérique. Nous voici les derniers de notre race. Nous faut-il aussi mourir? Et si vous lisez plus loin, ligne 38 plutôt, la conclusion de Tocqueville, je lis, tel est le langage des Indiens, ce qu'ils disent est vrai, ce qu'ils prévoient me semble inévitable. Ainsi, vous voyez, dans De la démocratie en Amérique, Tocqueville prête attention aux colonisés. Il dénonce la violence du colonisateur. Et il faudra s'en souvenir quand on examinera ses écrits sur l'Algérie. dans De la démocratie en Amérique, il est partagé entre la tristesse et la colère. Une colère retenue qui s'exprime par une ironie cinglante. Tantôt, en effet, il évoque des scènes poignantes, comme le spectacle désolant des Indiens Chactas, qui, contraints de quitter leur territoire en plein hiver, doivent traverser le Mississippi avec toute leur famille, vieillards et enfants, pour rejoindre une terre à l'ouest que le gouvernement américain leur a promis. Tantôt, il souligne combien la manière dont les Blancs exterminent la race indienne est en définitive beaucoup plus efficace que celle que pratiquaient les Espagnols en Amérique du Sud. Et là, on peut lire le même texte, Béline 51 à 60, plus loin. J'en lis quelques extraits, ligne 51. Les Espagnols lâchent leurs chiens sur les Indiens comme sur des bêtes farouches. Ils pillent le Nouveau Monde ainsi qu'une ville prise d'assaut, sans discernement et sans pitié. Mais on ne peut tout détruire. La fureur a un terme. Le reste des populations indiennes, échappées au massacre, finit par se mêler à ses vainqueurs et par adopter leur religion et leurs mœurs. La conduite des Américains, des États-Unis, envers les indigènes, respire au contraire le plus pur amour des formes et de la légalité. Et puis, je vais plus loin, vous retrouverez le texte. Eh bien, les Espagnols, dit Tocqueville, à l'aide de monstruosités sans exemple, en se couvrant d'une honte ineffaçable, n'ont pu parvenir à exterminer la race indienne, ni même à l'empêcher de partager leurs droits. Les Américains des États-Unis ont atteint ce double résultat avec une merveilleuse facilité, tranquillement, légalement, philanthropiquement, sans répandre de sang, sans violer un seul des grands principes de la morale aux yeux du monde, et admirer la chute. On ne saurait détruire les hommes en respectant mieux les lois de l'humanité. Alors, est-ce que Tocqueville manifestera le même souci d'humanité lorsqu'il parlera des Arabes dans ses écrits sur l'Algérie? C'est moins sûr, et on peut même dire que c'est très loin d'être le cas. Mais alors, il faut expliquer comment et comprendre pourquoi. On serait tenté de conclure que Tocqueville s'intéresse seulement aux Indiens et pas du tout aux Arabes. Ce serait vraiment se méprendre. Il faut comprendre ici que sa différence d'attitude ne tient pas au peuple considéré, mais au regard exercé par lui, qui change en raison de sa propre position. Quand il parle des Indiens dans De la démocratie en Amérique, il s'exprime en philosophe. Quand il parle des Arabes, dans ses écrits sur l'Algérie, il s'exprime en homme politique, acteur de la colonisation. Dans le premier texte, donc dans De la démocratie en Amérique, Tocqueville est dans la position d'un spectateur humain, sensible, mais éloigné par son statut d'observateur étranger, qui contemple impuissant un spectacle désolant, le triste spectacle des Indiens expropriés de leurs terres. Dans ses textes sur l'Algérie, comme nous allons le voir, c'est un acteur engagé, intéressé, impliqué dans la colonisation. Ainsi, il ne considère pas les Arabes comme il considérait les Indiens, comme des hommes à la souffrance desquels on peut compatir. Il les considère avec indifférence. On pourrait dire, comme on le dit aujourd'hui, qu'il les invisibilise. Car il est seulement soucieux de l'efficacité de la domination que les Français doivent exercer sur eux pour les soumettre. Et pour mesurer le changement de perspective, j'invite à lire ici l'apologue par lequel Tocqueville commence la lettre qu'il écrit en août 1837, où il fait part de sa critique sur la manière dont les Français ont jusqu'ici engagé la conquête de l'Algérie. C'est le texte numéro 2, à droite. J'en lis aussi un petit extrait, le début et la fin. Donc c'est une lettre écrite en août 1837. « Je suppose, monsieur, pour un moment, que l'empereur de la Chine, débarquant en France à la tête d'une puissante armée, se rendent maîtres de nos plus grandes villes et de notre capitale, et qu'après avoir anéanti tous les registres publics avant même de s'être donné la peine de les lire, détruit ou dispersé toutes les administrations sans s'être enquis de leurs attributions diverses, il s'empare enfin de tous les fonctionnaires, depuis le chef de gouvernement jusqu'aux gardes champêtres, des pairs, des députés et en général de toute la classe dirigeante, et qu'il les déporte tous à la fois dans quelques contrées lointaines. Ne pensez-vous pas que ce grand prince, malgré sa puissante armée, ses forteresses et ses trésors, se trouvera bientôt fort embarrassé pour administrer le pays conquis? Et puis, je vais plus loin, je vais à la conclusion. Vous allez voir, monsieur, que nous avons fait en Algérie précisément ce que je supposais que l'empereur de la Chine ferait en France. Alors voilà, enfin, c'est un texte vraiment qui est assez étonnant. Tocqueville utilise un procédé qu'affectionnaient particulièrement les philosophes des Lumières, celui par lequel le narrateur invite le lecteur à décentrer son regard pour se voir lui-même comme un étranger. Comment peut-on être persan, hein? Se voir avec les yeux d'un persan, hein, si vous voulez. Et de cette manière, le narrateur permet à son lecteur de prendre conscience du caractère grotesque de son comportement, en se voyant justement avec les yeux d'un étranger. Alors, les Français qui ont conquis l'Algérie depuis 1830 sont ainsi comparés par Tocqueville, dans sa fiction, à l'empereur de Chine, qui, après avoir conquis la France, se trouverait dans l'incapacité d'administrer le pays, car il aurait détruit tous les registres et déporté toutes les élites qui s'occupaient de son administration. Les philosophes des Lumières utiliser donc ce procédé pour critiquer l'ethnocentrisme de leurs contemporains européens et aussi pour dénoncer souvent l'intolérance, l'injustice de ces Européens en les incitant à se mettre à la place d'un étranger. Par le moyen de cet apologue, hein, où Tocqueville imagine la conquête de la France par l'empereur de Chine, On pourrait aussi s'attendre à ce qu'il dénonce l'injustice de l'entreprise coloniale française en Algérie. Mais on voit qu'il n'en est rien. Le procédé de l'apologue lui sert uniquement à condamner le caractère improductif de la conquête française. Il ne se passe pas sur le terrain moral, mais seulement sur le terrain pragmatique, le terrain de l'efficacité. Et la seule leçon, en quelque sorte, qu'il faut tirer de cet apologue, selon Tocqueville, eh bien, c'est que si les Français veulent réussir la conquête de l'Algérie, bah, il faut qu'ils s'y prennent autrement. Il faut qu'ils s'y prennent autrement qu'ils ne s'y sont pris jusqu'à présent, en détruisant tous les registres et en déportant les élites administratives. Ainsi, la question n'est pas ici de savoir si la colonisation est juste ou injuste. La seule question que se pose dorénavant Tocqueville dans ses écrits sur l'Algérie, c'est de savoir à quelles conditions on peut mener à bien la conquête et comment. Tocqueville n'est plus un observateur, il ne mène plus une enquête, il ne porte plus un regard désintéressé, il établit une expertise, comme on dirait aujourd'hui. En tant qu'homme d'État, et il se sent concerné comme citoyen de la nation française, comme l'indique l'emploi du pronom « nous » à la fin de l'extrait que j'ai cité, que je relis. Vous allez voir, monsieur, que nous avons fait en Algérie précisément ce que je supposais que l'empereur de Chine ferait en France. Alors, qu'est-ce qui justifie, pour l'homme d'État Tocqueville, l'entreprise coloniale en Algérie? Est-ce comme le pensait un philosophe comme Condorcet, ou comme le penseront de nombreux hommes politiques républicains, comme Jules Ferry sous la Troisième République, parce que la France a une mission civilisatrice auprès des peuples qu'elle soumet à la colonisation? Tocqueville n'adhère pas à cet argument. Il pense même que, loin de civiliser le peuple colonisé, la colonisation a pour effet de le rendre plus barbare. Il ne croit pas au bienfait de la colonisation pour les colonisés. Il écrit ainsi dans l'un de ses rapports parlementaires de 1847, je le cite, « Nous avons rendu la société musulmane beaucoup plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître. » Donc l'argument n'est pas celui-là. L'argument qui seul justifie pour lui la colonisation, c'est celui de la grandeur de la nation française. C'est l'argument nationaliste. Depuis le traité de Paris en 1763, qui a mis fin à la guerre de 7 ans, c'était la première guerre mondiale, la guerre de 7 ans, parce qu'elle a eu lieu en Europe, elle a eu lieu aux États-Unis, enfin en Amérique, elle a eu lieu sur plusieurs fronts. Hein. On devrait dire que c'est la guerre de 7 ans, la première guerre mondiale. Eh bien, à l'issue de cette guerre, traité de Paris 1763, la France paraît être entrée dans une phase de déclin pour Tocqueville. Elle a perdu ses colonies américaines, comme le Québec et la Louisiane, et l'Angleterre est devenue la première puissance mondiale. L'entreprise coloniale en Algérie vise donc à restaurer l'ancienne puissance perdue de la France et à rehausser sa position face à l'Angleterre, dont l'empire n'a cessé de s'accroître. Et Tocqueville souligne aussi l'intérêt géopolitique de l'Algérie par la position remarquable de ses ports comme Alger et Mers-el-Kébir, qui est à côté d'Oran, en Méditerranée occidentale. Alors le but étant fixé, la seule question qui se pose désormais, c'est celle des moyens qui permettront de l'atteindre. Et comme je le fais remarquer dans le document d'accompagnement que je vous livre aussi, eh bien, les prises de position de Tocqueville à ce sujet se modifient en fonction des différentes étapes de la conquête et de la colonisation. Les premières années, les années 30, sont très difficiles. Les troupes françaises essuient des revers. Et comme le remarque Tocqueville, les Arabes ont compris que les Français ne sont pas venus seulement pour s'emparer du gouvernement, de ce qu'on appelait à ce moment-là la régence d'Alger, et d'y remplacer les Turcs, qui gouvernaient depuis trois siècles. Si c'était le cas, ils ne se mobiliseraient pas. Mais les Arabes craignent à juste titre que les Français les dépossèdent de leurs terres. C'est pourquoi leurs tribus se sont unies sous le commandement d'un chef religieux, l'émir Abdelkader, et effectivement, ils vont se battre. Hein. Alors, pour gouverner, les Turcs avaient pris soin d'ôter tout pouvoir politique aux chefs religieux, mais comme le déplore Tocqueville, les généraux français Desmichel et ensuite Bugeaud ont pris l'initiative malheureuse, catastrophique, de signer successivement deux traités avec Abdelkader, ce qui a eu pour effet de renforcer son autorité, alors qu'ils se présentent comme le chef des croyants. Et pire encore, ils ont reconnu sa souveraineté sur une grande partie du territoire algérien. Alors après bien des atermoiements, un certain nombre de députés souhaitent le retrait des troupes françaises. Eh bien, après bien des atermoiements, la France décide de s'engager résolument dans la conquête de l'Algérie et de renforcer ses moyens militaires. Le général Bugeaud est nommé gouverneur général et il a le feu vert pour mener une guerre impitoyable. Alors après un voyage en tant que parlementaire en Algérie en 1840, où il rencontre les principaux généraux, Tocqueville rédige un travail sur l'Algérie en 1841, qui est sur la question son texte majeur. Alors la guerre d'abord lui apparaît comme le moyen indispensable qui permettra dans un premier temps de prendre possession du littoral et d'établir une colonisation partielle du territoire. Tocqueville est parfaitement conscient que la guerre coloniale ne peut pas être une guerre comme celle qui se produisent en Europe, à son époque bien sûr, et qui oppose des armées, où il s'agit de vaincre le gouvernement ennemi, et où on se donne comme règle d'épargner les populations civiles. Non, en Algérie, d'abord, il est inutile de concentrer les troupes pour livrer bataille, puisque ceux que l'on appelle les indigènes se dérobent à de pareils affrontements et Il mène une guerre de partisans contre les armées françaises qui est faite de harcèlement et d'incursions rapides. Ainsi, Tocqueville est convaincu que le seul moyen de venir à bout d'Abdelkader et de ses troupes, eh bien, c'est d'anéantir les ressources qui leur sont nécessaires et de s'en prendre aux populations civiles pour les contraindre à se rendre. N'en déplaise à un certain nombre de députés qui s'indignent contre de telles méthodes, eh bien, là, on va lire le texte de Tocqueville qui se trouve page 2, texte numéro 3. Je vais vous lire ce texte. Donc, vous prenez la ligne 1 à 7. D'une autre part, j'ai souvent entendu en France des hommes que je respecte, mais que je n'approuve pas, trouver mauvais qu'on brûlât les moissons, qu'on vidât les silos, et qu'enfin on s'emparât des hommes sans armes, des femmes et des enfants. Ce sont là, suivant moi, des nécessités fâcheuses, mais auxquelles tout peuple qui voudra faire la guerre aux Arabes sera obligé de se soumettre. Et s'il faut dire ma pensée, ces actes ne me révoltent pas plus, ni même autant, que plusieurs autres que le droit de la guerre autorise évidemment et qui ont lieu dans toutes les guerres d'Europe. Et je vais plus loin, Ligne 19. Si en Europe, on ne brûle pas les moissons, c'est qu'en général, on fait la guerre à des gouvernements et non à des peuples. Et ainsi, comme on voit, ce que Tocqueville condamnait en Amérique, eh bien, il va le recommander en Algérie. Et il va même recommander bien pire. Bien pire, à l'égard des populations civiles. Et il recommande trois types de pratiques, trois moyens. Le premier, eh bien, c'est ligne 36, 37, le moyen le plus efficace, je cite, dont on puisse se servir pour réduire les tribus, c'est l'interdiction du commerce. Alors pourquoi l'interdiction du commerce? Parce que c'est très efficace, ça entraîne la ruine des tribus qui sont à ce moment-là incapables de vendre leurs bêtes et ne peuvent acquérir les produits dont elles ont besoin. Le second moyen, ligne 60 à 66, plus bas, je lis le texte carrément, hein, ligne 60. Le second moyen en importance, après l'interdiction du commerce, est le ravage du pays. C'est rapide. Je crois que le droit de la guerre nous autorise à ravager le pays et que nous devons le faire soit en détruisant les moissons à l'époque de la récolte, soit dans tous les temps en faisant de ces incursions rapides qu'on nomme razzia et qui ont pour objet de s'emparer des hommes ou des troupeaux. Donc, vous voyez, le deuxième moyen. Et puis, troisième moyen, alors je ne l'ai pas photocopié, c'est la destruction des cités algériennes, qui permettent à ces barbares nomades, comme dit Tocqueville, de commercer. Donc, il s'agit toujours de les priver de leurs ressources. Ainsi, faute de pouvoir défaire des armées régulières et de contraindre leur gouvernement à négocier ou à capituler, comme cela se fait en Europe, eh bien, il est nécessaire de s'en prendre aux civils et à l'ensemble de leurs moyens de production et de subsistance. Et comme y insiste Tocqueville, la conquête a surtout pour finalité de permettre la colonisation. Coloniser, c'est déposséder des hommes. C'est leur enlever leurs terres. Or, cette dépossession, cette expropriation ne peut pas se faire sans violence. Aussi faut-il compter sur la force du gouvernement, son armée, pour l'imposer. Et Tocqueville ne le cache pas, cette expropriation est très dangereuse. Elle risque d'engendrer une haine tenace chez ceux que l'on spolie, haine qui peut traverser les générations. Et Tocqueville ici raisonne dans les termes de Machiavel, le fameux Machiavel, qui recommandait au prince d'éviter de s'emparer des biens d'autrui pour ne pas encourir sa révolte et conserver son pouvoir. Car, je cite Machiavel, C'est une phrase remarquable. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Or, la terre qui a été volée, elle est toujours présente dans la mémoire des hommes. Elle est toujours là. Ils savent que leurs ancêtres en ont été dépossédés. Donc le gouvernement colonisateur est dans la position de celui que Machiavel appelait un prince nouveau, c'est-à-dire un prince qui s'empare précisément de terres nouvelles, qui colonise. Et s'il s'empare des terres de ses nouveaux sujets, ben il sait qu'il s'expose à leur haine. Il sait que l'expropriation des terres est une opération dangereuse. Mais il sait aussi que le seul moyen efficace de réduire les dégâts, en quelque sorte, c'est d'exproprier par la force, une fois pour toutes, au départ. Frapper un grand coup, au départ, éviter ainsi d'exproprier à nouveau et de façon fréquente, au risque de s'exposer à une continuelle insurrection. Je cite Tocqueville. Je cite Tocqueville, c'est le texte qui se trouve, page 3, en haut à droite. Mais bon, écoutez, vous le lirez vous-même, je le cite, hein, parce qu'il n'est pas compliqué à entendre. « Il n'y a en général rien de plus dangereux dans un pays nouveau que l'usage fréquent de l'expropriation forcée. Mais dans le cas présent, et dans ce désordre prodigieux de la propriété, un pareil remède administré une fois pour toutes en une seule dose est nécessaire. Il faut de toute nécessité arriver à ceci, fixer à l'aide d'une procédure sommaire et d'un tribunal expéditif. Hein, et donc la propriété est établir pour cette, pour cette seule occasion la propriété et ses limites. Bon. Fin de citation. Donc, vous expropriez au départ une fois pour toutes, un grand coup, et après, vous n'y revenez plus. L'expropriation ne doit pas être commencée. Et quand la violence aura été pratiquée au départ, après, on pourra calmer les choses. Et on peut compter à ce moment-là sur la pacification. Hein. La société pourra être stabilisée, elle pourra apparaître une société bien réglée, sans violence. On aura oublié la violence initiale. Et d'ailleurs, dès lors que la situation est stabilisée, que les principaux chefs arabes ont été vaincus, Abdelkader se rend aux Français en 1846, eh bien la question de la colonisation doit prendre le pas sur celle de la guerre. Et pour Tocqueville, il est désormais nécessaire que l'administration de la colonie soit retirée des mains des militaires pour être confiée aux civils. Le choix du général Bugeaud en 1841 a permis d'obtenir des résultats militaires remarquables, mais il se révèle extrêmement dommageable pour la colonisation elle-même. Bugeaud est opposé à ce que l'Algérie devienne une colonie pacifiée, régie par une administration civile. Pour lui, l'Algérie doit rester une Algérie en armes et être colonisée par des soldats laboureurs. Et lors de son deuxième voyage en Algérie, en 1846, Tocqueville est témoin du mépris manifesté par l'armée à l'égard des colons civils et il est aussi témoin d'un certain nombre d'exactions commises contre eux. Se trouve parfois brutalement expropriés par les militaires. Les vœux de Tocqueville seront exaucés, puisque Bugeaud est remplacé en 1847 par un gouverneur civil, le duc d'Aumale. Donc désormais, il est temps de fonder un régime politique en Algérie qui soit aussi proche que possible de celui de la métropole. Et Tocqueville est convaincu que les Européens ne pourront avoir envie de s'implanter que s'ils ont l'espoir de faire fortune et s'ils peuvent retrouver en Algérie une législation qui garantisse leur propriété et leurs droits individuels. Toutefois, il ne suffit pas de transférer l'autorité à l'administration civile pour que tout se passe au mieux, il faut aussi que cette administration civile soit vraiment compétente et efficace. Or, ce n'est pas le cas du temps de Tocqueville. Et Tocqueville plaide ici pour une décentralisation. Plus exactement, il souhaite que la colonie soit décentralisée par rapport à Paris et centralisée, par contre, par rapport à Alger. Et pour faciliter la colonisation agricole, il recommande de favoriser au plus vite le développement d'une vie communale où les colons délibèrent sur les questions qu'ils connaissent bien, qu'ils peuvent résoudre mieux, sans avoir à attendre les décisions d'un pouvoir central lointain. Donc, et ici, il recommande de s'inspirer de ce qu'il a vu dans la jeune démocratie américaine quand il a voyagé en Amérique. Alors, on aura compris que dorénavant, la question n'est plus de savoir comment parvenir à installer la colonisation par le moyen de la conquête, mais ce que doit être la politique coloniale de la France en Algérie. Alors, comment envisager l'architecture institutionnelle et juridique de la colonie? Comment, surtout, administrer la coexistence entre les colons européens et ceux qu'on appelle les indigènes ou encore les sujets musulmans? Alors, comme l'indique un extrait que je vous ai remis, bon, je ne vais pas le lire parce que ça va être... je vais perdre du temps là-dessus. Donc, je vous inviterai à lire l'extrait numéro 7 qui se trouve page 3. Bon, comme l'indique ce texte, Tocqueville juge chimérique la fusion des populations européennes et musulmanes. Il constate qu'elles n'ont aucun lien. Culturellement, elles sont très différentes. Et, je cite, qu'elles forment deux corps juxtaposés, mais complètement séparés. Et qu'il n'y a donc pas de véritable société, finalement, dans la colonie. Dans ces conditions, ben, il considère qu'il doit y avoir deux législations très distinctes. Et je cite ici donc deux formules, deux phrases très remarquables. Alors, elles se trouvent dans les textes que je vous ai remis. La première, rien n'empêche absolument, quand il s'agit des Européens, de les traiter comme s'ils étaient seuls. Les règles qu'on fait pour eux ne devant jamais s'appliquer qu'à eux. Il écrit encore, on ne peut pas traiter les sujets musulmans comme s'ils étaient nos concitoyens et nos égaux. Hein ? C'est du Tocqueville. Et alors que les Européens doivent être régis par le code civil, bénéficier des tribunaux civils administratifs, eh bien les indigènes, donc les sujets musulmans, demeurent soumis aux tribunaux islamiques sous le contrôle des autorités françaises. S'agissant du régime foncier, Tocqueville souhaite toutefois aligner la propriété qui régnait jusqu'alors en Algérie et qui était une propriété communautaire sur le droit européen de la propriété privée, dans la mesure où ce droit permet le rachat des terres indigènes. Ça facilite les choses. Sur le plan pénal, les Arabes doivent rester soumis à une juridiction d'exception exercée par les militaires. Et dans son rapport de 1847, Tocqueville recommande pour les indigènes l'établissement de conseils de guerre. Et c'est dans le prolongement, d'ailleurs, de cette justice militaire que sera établi plus tard, sous la Troisième République, le fameux code de l'indigénat. Alors, si je résume, pour les colons européens, il faut un état de droit. Pour les indigènes, il faut le maintien d'une dictature militaire. Toute forme de dictature militaire est condamnable lorsqu'elle pèse sur les Européens et lorsqu'elle viole leurs droits fondamentaux. Mais concernant les indigènes, elle est le régime approprié, car elle permet d'asseoir la domination de la France en Algérie, et il est important de tenir les indigènes dans la crainte. Tout doit être fait pour rappeler sans cesse aux colonisés que la France domine pour longtemps, qu'ils sont vaincus et qu'ils ne peuvent que se soumettre. Ainsi, Tocqueville juge dangereuse inutile une politique d'assimilation qui leur permettrait d'acquérir les idées, les mœurs de la civilisation européenne. S'il est favorable, en revanche, au développement de l'instruction religieuse des musulmans, c'est pour mieux rétablir l'autorité des chefs religieux traditionnels. Je vous ai aussi remis un texte, vous verrez le texte numéro 9, hein, là-dessus. Et comme il l'explique dans ce texte, il s'agit surtout d'éviter que des fanatiques ne s'emparent de la religion pour exciter les sujets musulmans à la rébellion et les encourager à l'insurrection. Vous voyez ici que l'instruction n'a pas pour objectif l'émancipation intellectuelle. Son but, c'est de maintenir les populations indigènes dans la soumission. Et comme la force seule est impuissante à maintenir les colonisés dans leur état de sujétion, il faut conditionner les esprits pour les persuader que toute résistance est vaine et qu'ils doivent se soumettre. Et dans ce cadre, comme l'explique Tocqueville, le moindre changement est susceptible d'être interprété par eux comme une concession. Et cela risque de faire surgir un esprit de rébellion. Le risque est en effet que les indigènes se perçoivent et se conduisent comme des égaux injustement asservis par un pouvoir étranger. Et là, vous avez un texte, le texte numéro 8, que vous direz aussi. À ce sujet, je résume, c'est laisser aux sujets musulmans des idées exagérées de leur propre importance que de leur construire des mosquées, comme c'est parfois arrivé, ou de transporter sans frais des pèlerins à la Mecque, ou même encore d'accorder à quelques-uns d'entre eux des distinctions honorifiques, alors, comme le dit Tocqueville, alors qu'elles sont destinées à signaler le mérite de nos citoyens. Mais alors, comment maintenir durablement la colonisation s'il ne faut jamais d'un côté cesser de se faire craindre? Et si on veut par ailleurs éviter d'engendrer une haine féroce qui peut encourager l'insurrection? C'est la quadrature du cercle. Et d'ailleurs, ici, encore une fois, je répète, Tocqueville raisonne exactement comme Machiavel. Hein, comment doser, finalement, la violence pour éviter la haine, tout en assurant la crainte? Eh bien, Tocqueville est tout à fait conscient de la difficulté. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il ne se fait aucune illusion. Il n'a aucune illusion sur les prétendus effets bénéfiques de la colonisation. Elle a considérablement dégradé la population indigène. Et il note d'ailleurs de son côté une baisse démographique. Mais il est assez inquiet des conséquences dangereuses que pourrait avoir cette dégradation en acculant les colonisés au désespoir. Et ainsi, en s'adressant en 1847 aux députés de l'Assemblée nationale, il écrit, alors là je crois qu'il faut le lire le texte, il est très beau, texte, il est sur la page 1, à droite. Ah non, je dis, je fais des bêtises. C'est page 2. Page 2, excusez-moi. Page 2, le texte est à droite. Alors, je ne vais pas lire depuis le début. Vous prenez le deuxième paragraphe, à peu près au milieu. Vous avez repéré? Je lis le passage suivant. Il s'adresse à des députés, hein. Il y aurait même, suivant nous, de l'imprudence à croire que nous pouvons parvenir aisément et en peu de temps à détruire dans le cœur des populations indigènes la sourde haine que fait naître et qu'entretient toujours la domination étrangère. Il faut donc, quelle que soit notre conduite, rester fort. Ce doit être toujours là notre première règle. Et puis, plus loin, dans le paragraphe qui vient ensuite, ce qu'on peut espérer, ce n'est pas de supprimer les sentiments hostiles que notre gouvernement inspire, c'est de les amortir. Ce n'est pas de faire que notre joug soit aimé, mais qu'il paraisse de plus en plus supportable. Les verbes sont remarquables ici. Hein, il ne s'agit pas de supprimer les sentiments hostiles, c'est illusoire. Il s'agit de les amortir, de les modérer. Et de quelle manière y parvenir? Eh bien, la solution préconisée par Tocqueville, elle est énoncée quelques lignes plus loin. Il s'agit, alors vous verrez, là je c'est plus loin, il s'agit selon lui de créer ce qu'il appelle une communauté d'intérêts entre les colons européens et les indigènes, et d'amener ainsi ces derniers à trouver une forme de satisfaction sur le terrain économique. Sur le terrain économique. Ainsi, par exemple, si je lis un passage qui se trouve plus loin, c'est... Vous voyez, là où, avant, où c'est, y a un blanc, un espace, et vous lirez la phrase suivante, « L'Européen a besoin de l'Arabe pour faire valoir ses terres, l'Arabe a besoin de l'Européen pour obtenir un haut salaire. » Vous voyez, vous avez vu, c'est, bon, tout le passage est remarquable, mais enfin, je relève cette phrase. Donc, c'est en devenant les salariés... Alors, même, c'est assez comique, enfin, si on peut dire, l'expression « l'Européen a besoin de l'Arabe pour faire valoir ses terres », l'expression ne manque pas le sel. Et quand on sait que l'Européen est devenu propriétaire de la terre qui appartenait autrefois aux Arabes. Bon. Alors, donc, la solution, vous voyez, c'est en devenant les salariés des nouveaux propriétaires du sol que sont les colons, donc en leur fournissant des bras pour cultiver le sol, ben c'est de cette façon que les Arabes pourront trouver leur compte, selon Tocqueville. C'est de cette manière que se réalisera entre l'Européen et l'Arabe une communauté d'intérêts. Alors, pour terminer, quelle leçon tirer de la lecture des écrits de Tocqueville sur l'Algérie? Ce qu'il dit de l'Arabe dans ses textes sur l'Algérie est-il d'abord si différent, si éloigné de ce qu'il décrivait de la condition de l'Indien et du Noir d'Amérique? Voyons les points communs. Comme l'Indien, et comme le Noir, d'ailleurs aux États-Unis, l'Arabe ne peut prétendre jouir des droits de la citoyenneté, ni sur le plan civil, ni sur le plan politique. Et de même que l'Indien et le Noir sont exclus de la démocratie américaine, eh bien de même l'Arabe se trouve exclu de l'état de droit français, et ce sera encore le cas sous la Troisième République. Et pour être plus précis encore, la condition de l'Arabe ressemble en partie à celle des Indiens d'Amérique, et sous une autre forme, dans une autre partie, à celle du Noir américain. Je m'explique. Comme l'Indien, l'Arabe subit une expropriation, il est privé de sa terre, comme le Noir, après l'abolition de l'esclavage, il subit la ségrégation et il n'a d'autre choix que de travailler au service du nouveau propriétaire qu'est le colon. Et s'il est vrai que Tocqueville est anti-esclavagiste, là, il a participé à l'abolition de l'esclavage avec Chachère, 48. Hein. Il préconise pour l'Arabe d'Algérie un système colonial dont la discrimination est fondée, selon lui, sur la supériorité de la civilisation française, européenne. La mise en place d'une double législation qu'il revendique et qui revient à séparer les civilisés des barbares, les colons des indigènes, repose, qu'on le veut ou non, sur une barrière raciale. Alors, est-ce que Tocqueville se contredit? Y a-t-il contradiction entre les principes énoncés par sa philosophie politique dans De la démocratie en Amérique et ses écrits sur l'Algérie? Je voudrais montrer qu'il n'y a pas vraiment de contradiction, même si ce n'est pas apparent. Mais il faut d'abord souligner que ces textes n'ont bien sûr ni le même statut, ni la même finalité, vous vous en rendez compte. Dans De la démocratie en Amérique, la condition des Noirs et des Indiens apparaît inacceptable au regard des principes universels de justice, d'égalité des droits des êtres humains, dans les écrits sur l'Algérie, Tocqueville s'exprime comme homme d'État et il se prononce en expert. Il a pour souci majeur la grandeur de la nation française. Bon. Alors on pourrait conclure que le nationalisme de Tocqueville, qui le conduit à justifier la colonisation, entre en contradiction avec les principes universels que sont les droits de l'homme et du citoyen. Mais s'en tenir à cette contradiction ne me paraît pas satisfaisant et suffisant. Parce que si on lit attentivement sa fameuse démocratie en Amérique, surtout le début, on remarque qu'il y a dans cette œuvre des considérations qui laissent présager ce que sera la position politique de Tocqueville dans ses écrits sur l'Algérie. Au début de l'ouvrage, donc au début de la démocratie en Amérique, Tocqueville présente en effet la disparition des Indiens, de ces sauvages d'Amérique, comme le résultat prévisible d'un destin inéluctable. Ainsi, le mouvement de la civilisation condamne les Indiens à disparaître. Et pourquoi ils sont condamnés à disparaître? Parce que ce sont des chasseurs nomades et non des cultivateurs. Et que seuls des cultivateurs peuvent être propriétaires de la terre. Car seul le travail de la terre peut fonder le droit de propriété. Tocqueville s'inscrit ici dans la grande thèse libérale qui est énoncée par le philosophe anglais John Locke. C'est le travail de la terre qui fonde le droit à la propriété. Et c'est au nom de cette thèse que Tocqueville écrit à maintes reprises que les Indiens occupent leur territoire, mais ne le possèdent pas. Il fait cette distinction. Ils occupent leur territoire, mais ne le possèdent pas. Ainsi, comme ils ne cultivent pas la terre, ils ne participent pas au processus de civilisation, ils y sont étrangers, et ils demeurent dans l'état sauvage. Et Tocqueville écrit ainsi, alors là, vous allez regarder ces textes, ce sont les derniers, c'est les textes 10 et 11, commencez par le texte 11, c'est un extrait de la démocratie en Amérique, le début. C'est par eux que je termine. Regardez bien. Le texte numéro 11, page 4. Je lis le début. Vous avez repéré ? Quoique le vaste pays qu'on vient de décrire fût habité par de nombreuses tribus d'indigènes, on peut dire avec justice qu'à l'époque de la découverte, il ne formait encore qu'un désert. Les Indiens l'occupaient, mais ne le possédaient pas. C'est par l'agriculture que l'homme s'approprie le sol. Et les premiers habitants de l'Amérique du Nord vivaient du produit de la chasse. Vous voyez ce que dit Tocqueville ? Et il écrit plus loin dans le même texte, que le territoire occupé par les Indiens n'était qu'un berceau encore vide. J'ai souligné le passage. Il n'était en quelque sorte qu'un berceau encore vide. En attente en quelque sorte d'un colonisateur qui viendrait cultiver la terre et qui serait de ce fait le seul à pouvoir être légitimement propriétaire du sol. Et quand Tocqueville réfléchit aux Arabes dans les écrits sur l'Algérie, qui occupent le territoire de l'Algérie, regardez, on va prendre le texte, est à gauche. Quand il réfléchit aux Arabes qui occupent donc le territoire de l'Algérie avant la conquête des Français, eh bien, Tocqueville ne peut pas s'empêcher de les comparer aux Indiens d'Amérique. La question le préoccupe. Est-ce qu'ils sont cultivateurs ou non ? Et il doit bien reconnaître que ce ne sont pas simplement des chasseurs, mais aussi des cultivateurs. Ce sont les deux. Et qu'il y a donc une différence entre les Arabes et puis les Indiens. Mais il n'empêche, comme vous allez le lire avec moi, qu'il a besoin d'écrire dans les écrits sur l'Algérie ce fameux texte que vous allez lire avec moi, le dernier en bas. Hein. Le pays est occupé, et il est vrai. Mais il n'est ni rempli, ni même, à vrai dire, possédé. La population indigène y est très rare et très clairsemée. Là, les Arabes, en fait, ils sont pas beaucoup, ils sont pas concentrés, donc on va pouvoir s'installer. On peut donc introduire la population conquérante sur le sol sans gêner la population vaincue. Alors là encore, vous voyez, les Arabes ne sont pas considérés comme de véritables propriétaires. Et bon, même s'ils le sont, ils sont clairsemés. Les Français sont donc en droit de coloniser l'Algérie. D'ailleurs, ils vont coloniser les plaines du Mitidja, une région très fertile qui se trouve au sud d'Alger. Commencez par là. Et là, vous touchez au fondement même du projet colonial, au-delà même du seul cas d'Algérie. Le projet colonial a besoin toujours de présenter la terre conquise et colonisée comme un désert, comme une terre sans peuple, comme une terre sans peuple. Pour un peuple sans terre, dira un certain Herzl. Vous voyez, c'est cette idée qui est très forte, hein, dans le projet colonial. Et ce que nous permet de comprendre Tocqueville, c'est ça. Vous voyez, je trouve que sa lecture est intéressante. Il dit crûment les choses. Il explique parfaitement ce qu'il en est, donc, du projet colonial. J'en ai terminé. Je suis à vos questions.
Il n'avait pas envisagé la décolonisation qui lui donne raison, parce que ça reste difficile pour le colonisateur, la décolonisation.
Alors, je vais vous répondre. La décolonisation, non, il n'y a pas pensé vraiment, hein, parce que... Non, mais par contre, il est assez visionnaire. Et dans le texte que je vous ai lu, là, le texte numéro 4, page 2, vous verrez, hein, bon... Il dit bien qu'il y a un risque considérable de perdre. Si les choses ne s'améliorent pas, si les Français maltraitent trop les colonisés, c'est ce qui se passera. Ben, c'est lucide. Et d'ailleurs, en 47, il s'arrête d'écrire là-dessus, parce qu'il a passé la main. Vous voyez, il est conscient que, franchement, les choses ne vont pas dans le bon sens. Et vous savez bien, c'est une chose qu'on oublie, qu'on n'enseigne pas non plus, hein, c'est que tout au long du 19e siècle, les Algériens, alors il y a les Kabyles aussi, hein, mais les Kabyles vont être conquis plus tard que les Arabes, hein, et de façon extrêmement violente. Il y a une grande insurrection en 1871, terrible, hein, qui va durer une année. Bon, qui va être écrasée, mais à quel prix ? Bon. Je veux dire que le ressentiment, il est là pendant très longtemps. Là, Tocqueville est parfaitement lucide. On peut lui reconnaître ses grandes qualités de lucidité. Donc, oui, la colonisation est exposée à l'échec.
Alors, des deux côtés, du reste, hein, parce que le colonisateur supporte encore des difficultés aujourd'hui, mais le colonisé, certains regrettent l'ex-présence.
Oui. C'est pas majoritaire, tu peux le sentir.
Je l'ai entendu dire discrètement.
Oui.
Ça ne figure pas dans les discours officiels, mais certains en Algérie regrettent.
Quoi qu'il en soit, une colonisation laisse toujours des traces. Et au-delà même, hein, même quand le pays a obtenu son indépendance. C'est une histoire lourde et qui n'est pas digérée et dont on n'a pas envie de parler, qui est refoulée, ah, et de part et d'autre. D'abord, les Français ont été en un sens humiliés. Là. La grandeur de la France en a pris un coup, hein, dans, par rapport au mythe de la France, hein, la grande France puissante. Bon. Et puis, bon, il y a eu des Français d'Algérie qui sont allés.
Ah, oui.
Et puis, bon, l'indépendance, elle s'est faite dans la violence. Une violence qui a permis, parfois, effectivement, à certains de se constituer comme caste. Hein. l'armée en Algérie occupe toujours une place importante, c'est clair. Et la situation est assez cadenassée. Donc on est d'accord que de toute façon, ça n'est vraiment pas simple, ça laisse des traces. Ah, c'est clair. J'ai une question. Alors, monsieur Pierre Pavre. Oui, là d'abord. Plus fort, hein.
Quand ils préconisent d'abattre les populations, la population civile et de détruire la terre, les industries et tout, ça me fait penser un peu à ce que font les Russes tout de suite en Ukraine, où ils abattent les populations civiles et qu'ils tirent sur ce qui est, sur les trucs électriques, sur les...
Oui, mais c'est pas exactement la même chose. Là, c'est une. Oui, bien sûr. De toute façon, les guerres modernes aujourd'hui, elles se sont inspirées des guerres coloniales. C'est-à-dire qu'en 19e siècle, les guerres étaient. Il y avait des règles, ce qu'on appelle le droit des gens. Le droit des gens, c'est une sorte de droit humanitaire. On ne fait pas, on ne tue pas un prisonnier. On respecte les civils, on ne s'accapare pas leur terre. Alors, je ne dis pas que c'était toujours respecté, mais c'était un principe que les armées admettaient dans l'ensemble. Et puis, le XXe siècle va totalement basculer dans la barbarie. Je veux dire, et d'ailleurs, c'est Hannah Arendt qui le montre bien, c'est que le laboratoire des régimes totalitaires, notamment du nazisme, c'est l'Afrique coloniale. C'est là qu'on s'est habitué à des crimes de masse absolument effrayants. Épouvantable. Hein, bon, les Allemands, par exemple, ont fait disparaître des milliers de noirs héros en Namibie. Enfin, c'est... Évidemment, comme c'est très loin, on ne le sait pas, on ne le voit pas. Hein, et c'est quelque chose dont les Européens n'ont aucune conscience, ils ne sont pas sur le terrain.
Aucune. On le voit après, quand même.
Oui, on le voit après parce que vous vous êtes déplacée, puis parce que vous êtes curieuse, mais je dirais que, au fond. Bon, mais et donc on a fait comme si ce qui s'était produit en Europe au XXe siècle avec nazisme, stalinisme, c'était quelque chose d'absolument nouveau. Oui et non. Il y a tout de même précédent de ce qui s'est produit avec la colonisation au XIXe siècle. Alors. Et c'est à une échelle. Et puis, alors aujourd'hui, effectivement, les guerres, de toute façon, les guerres maintenant, il y a plus de civils morts que de soldats. C'est clair. De toute façon, regardez, la guerre 39-45, les Américains, ils ont bombardé à outrance les villes allemandes. Il y avait énormément de morts. Ça, c'était pour terroriser. Il s'agit de terroriser la population. Et on croit que de cette manière, on obtiendra la capitulation. Bon, donc, vous voyez... Non, mais là, on compare... Moi, je comparais... Enfin, Tocqueville compare, lui, avec, disons, la pratique de la guerre en Europe. Et c'est vrai que les soldats qui arrivent en Afrique, au début, ils croyaient pouvoir faire la guerre comme on la faisait en Europe. Puis ils vont apprendre d'autres méthodes, et des méthodes qui sont assez effrayantes. Et comme ils ont quartier libre... Ce sont tout puissants. Alors, Tocqueville, d'ailleurs, désapprouve un certain nombre de ces pratiques. Il y a des soldats français, des militaires français, qui considèrent qu'il faut carrément exterminer la population. Il faut faire disparaître. Ils sont pour un génocide. Là, il est hostile à ça. Est-ce qu'il dit, en même temps, si on fait ça, alors, même pas pour des raisons morales, ça risque d'engendrer une haine épouvantable de la part des populations. Donc voilà, ça c'est la nouveauté. Alors il y a monsieur Pierre, à vous. Oui.
Ce que vous ne dites pas, et peut-être que Tocqueville ne le dit pas, c'est que l'Algérie et l'Amérique du Nord, sur le plan colonial, ont deux histoires très différentes. L'Algérie a été maintes fois colonisée. Donc ça a été colonisé par les Romains, ça a été colonisé après par les Arabes. Et puis maintenant, ça a été l'objet aussi d'une lutte entre la civilisation chrétienne et la civilisation musulmane. Il y a eu, venant d'Algérie, des pirates, enfin des...
Oui, oui, il y a une histoire.
Il y a une histoire qui fait qu'on est aussi dans un rapport de force Donc, il est marqué par des moments où la civilisation européenne n'a pas forcément été dominante, mais a plutôt été dominée. Puisque les...
Alors, je vais vous répondre, peut-être pas remonter trop haut, parce que, au moins, en ce qui concerne les Turcs qui précédaient les Français, ils gouvernaient, ils ne colonisaient pas au sens précis où l'entend Tocqueville, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas propriétaires des terres. Les tribus arabes étaient propriétaires des terres. Donc, les Arabes s'accommodaient de leur gouvernement. Puis les tribus arabes, d'ailleurs c'est là-dessus que comptait Tocqueville, elles étaient divisées, elles étaient souvent en querelle. Il avait peur, ce qu'il préconisait, c'est une politique qui divise les Arabes. Hein bon. Mais c'est le contraire qui s'est produit, à cause de la maladresse des généraux français. Bon. Donc, vous voyez, il y a quand même... tout dépend de ce qu'on entend par colonisation.
Dominer,
voilà. Voilà. Alors, dominer, c'est pas coloniser. Vous voyez, coloniser, c'est pour Tocqueville exproprier les gens qui habitent le coin, c'est leur enlever leurs terres. Alors, la colonisation romaine n'était pas une colonisation qui consistait franchement à déposséder les autochtones de leurs terres, même si effectivement des Romains venaient s'implanter. Il y avait une sorte d'intégration, quoi, hein, souple, hein, si on peut dire. Bon, donc les Turcs étaient là, ils étaient acceptés. Bon, en plus, ce qui facilitait l'acceptation, c'est qu'ils avaient la même religion aussi. Hein. Et bon, il n'y avait pas trop de problèmes, si on peut dire. Ils collectaient l'impôt. Il y avait une bonne entente relative. Les Français, c'est autre chose. C'est un autre projet. Ils ont vraiment le projet de prendre les terres. Ça change tout. Hein. Ça change tout. Les Indiens. Quand ils voient les Anglo-Américains débarquer, ils ne sont pas hostiles. Certains s'allient, d'autres non. Enfin bon. Et puis, ils n'ont pas idée que les Américains ont un tout autre projet de société que le leur. Hein. Ils vont le découvrir à leurs dépens.
Alors, ce que je veux dire, c'est que quand Tocqueville va en Amérique, il sait que la France a perdu la partie aussi en Amérique. C'est-à-dire qu'elle a doublement perdu la partie.
Oui.
Elle l'a perdue parce qu'il n'y a plus de colonisation, enfin, il n'y a plus d'implantation française en Amérique du
Tout
Nord.
À fait.
Et elle l'a reperdue d'une certaine manière parce que, bien qu'ayant aidé les Américains des États-Unis à se libérer du joug britannique, quelques décennies plus tard, les liens se sont reformés entre les Américains des États-Unis et l'ancienne colonie. Alors, pas des rapports de dominé à dominant, mais en tout cas des rapports économiques, politiques, qui font que malheureusement, cette aide qu'on a apportée, enfin, c'est sur le plan nationaliste, hein, l'aide qui a été apportée au XVIIIe siècle par la France aux États-Unis d'Amérique ne s'est pas ensuite concrétisé par une influence française en Amérique, mais au contraire, quelques décennies plus tard, quand Tocqueville débarque, c'est...
Il y a encore une présence un peu dans le nord, et puis en Louisiane. Il voit bien. D'ailleurs, il la sent tout de même. Il est assez nostalgique à ce moment-là, d'ailleurs, dans ses écrits. Il témoigne de cette... Et il en veut à Louis XV. La famille en veut à Louis XV.
Oui, c'est une cécité de la part des gouvernants de l'époque par rapport à l'importance géostratégique. Puis Napoléon, il n'a rien compris du tout non plus.
Enfin bon, là, on s'éloigne de notre problème précis.
Non, mais, du coup, il peut être, il peut avoir un regard aussi plus neutre sur l'Amérique parce qu'il n'y a plus dans la partie.
Ah oui, non, mais bien sûr.
La partie est perdue.
Bien sûr. Non, il n'est pas, de toute façon, il n'est pas impliqué. Il est vraiment là en philosophe, observateur. Il parle d'humanité.
Oui.
Vous voyez ?
Mais c'est les circonstances aussi géopolitiques qui lui permettent d'avoir cette position neutre.
Oui.
Alors que si la France avait été plus encore présente en Amérique du Nord,
sans doute,
il aurait peut-être eu un regard
sans doute, différent. Il y a madame qui voulait...
Oui. J'avais une question à vous poser. Est-ce que vous voyez un parallèle entre le processus de colonisation tel que on l'a décrit là et la colonisation dans l'Empire britannique?
Ah. Oui. En tout cas, Tocqueville ne cesse de s'interroger sur la colonisation de l'Inde. Parce que c'est l'Angleterre, je ne dis pas qu'elle fait de figure de modèle, mais elle est tout de même le pays, le grand pays colonisateur par excellence, hein, qui a conquis tout de même beaucoup plus de terres que les Français. Donc il y a l'Inde et l'Égypte faisant partie, finalement, étant une terre qui permet d'aller vers l'Inde. C'est les conquises par les... C'est l'intérêt surtout les Anglais, c'est pour sa position médiatrice. Hein. Alors, est-ce que... Maintenant, à partir de là, je ne vois pas, en tout cas dans le texte sur l'Algérie, de comparaison. Non, il n'y a pas de... J'en vois pas. Dans ses lettres, dans ses... Oui.
Est-ce que le Commonwealth est une bonne sortie de la décolonisation?
Les Français ont essayé de faire quelque chose d'un peu pareil, hein, avec l'Union française, enfin, bon, je ne sais pas, avec une... Bon. Oui, mais là, disons que Commonwealth, il y a une reine. Toujours. Qui n'a pas le pouvoir. Bon. Enfin, je me suis dit. Ouais. Vous avez des questions ou des remarques? Bon, je suis désolé qu'il n'y ait pas eu plus de monde. Pour les personnes qui connaissent, qui ne connaissent pas. L'association Philopop, Association Populaire de Philosophie du Havre, elle existe depuis 2007. Elle tient des séances de philosophie tous les ans, deux fois par mois, à peu près, sur un thème ou une œuvre qui sont choisies pour l'année et qui changent. Et puis, par ailleurs, il y a des émissions sur la radio Westrack, une radio locale, une fois par mois à peu près, un dimanche, qui sont podcastés. Et puis je fais aussi quelques conférences à la bibliothèque quand c'est possible. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Très intéressant.
Merci.
Merci beaucoup.